Un livre culte devenu film culte, puis second film culte, c'est un chemin peu commun pour une œuvre, mais c'est pourtant celui qu'a emprunté Blade Runner, et ça c'est génial. Sceptique, ouvrez donc bien vos oreilles.
Carte d'identité. Nom.
Blade Runner.
Nom donné à la naissance.
Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques?
Auteur du livre.
Philippe K. Dick, le K c'est pour Kindred. Fun fact, aux États-Unis, c'est un prénom épicène, ça veut dire qu'il peut convenir à une fille ou à un garçon. Convenient.
Réalisateur de Blade Runner.
Le Britannique Ridley Scott.
Réalisateur de la suite Blade Runner 2049.
Le Canadien Denis Villeneuve.
Genre.
Science-fiction pur jus.
Signe particulier.
L'auteur du livre verra une version de travail du film adapté de son livre, qu'il adorera, mais mourra peu avant sa sortie officielle en 1982. Si Blade Runner devait être une forme géométrique, oui, on ose tout dans C'est génial, c'est comme ça, et attention, il faut suivre un petit peu, on pourrait parler d'un triangle. Parti d'un livre, il devient un film et puis une suite. Chacune de ces incarnations constitue donc une des trois pointes d'un objet narratif fascinant. On démarre avec le bouquin, écrit en 1966 et publié en 1968, la même année que 2001 de Kubrick au cinéma. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Est donc l'œuvre littéraire d'un certain Philippe K. Dick. Avec ses 40 romans et quelques 200 nouvelles adaptées 80 fois au cinéma, oui, Total Recall, c'est lui, oui, Minority Report, c'est lui, et bien sûr, Blade Runner, c'est encore lui. C'est une vraie star. Mais cet auteur pas facile, né fin des années 20 dans un Chicago en proie à la crise, grand consommateur de drogue, limite mystique et sujet au saut d'humeur, n'a pas encore l'aura qu'on lui prête, voire qu'on lui donne aujourd'hui. Toujours est-il qu'en cette année 1968, il pond un livre au titre bien énigmatique. La preuve, il est présenté sous la forme d'une question que je redis car j'aime bien faire la liaison. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? L'histoire, je vous la résume, dans le futur, d'abord 1992 puis 2022, les éditeurs souhaitant visiblement laisser un répit à notre petite planète bleue, la Terre a subi l'inévitable conflit nucléaire, les humains ont déserté en masse ce vieux caillou devenu invivable. Sur la colonie de Mars, des entreprises peu scrupuleuses produisent à tour de bras des androïdes destinés à effectuer les tâches que les humains négligent. Mais certains s'échappent et arrivent sur la Terre, foutant, il faut le dire, un sacré bazar. That's what it is to be a slave. Rick Deckard, ça ne s'invente pas, sorte de chasseur de primes, gagne sa croûte en dégommant les réplicants, c'est le petit nom qu'on donne aux robots, quand ces derniers sont devenus obsolètes, récalcitrants, dangereux, voire les trois à la fois. A Blade Runner's job is to hunt down replicants. Manufactured humans, you can't tell from the real thing. What's this? Il va avoir du gros, mais alors du très gros fil à retordre face à un nouveau modèle de ces boîtes de conserve qui imitent à merveille les humains, les Nexus 6. What I didn't know was they were looking for me. Oui, je vous le concède, dit comme ça, pas de quoi casser trois pattes à un canard, aussi électrique fut-il. Bref. Mais comme toujours avec la SF, tout est dans les questions qui se posent entre les lignes. En vrac, l'homme est-il bon? Les robots ont-ils une âme? Les voitures peuvent-elles voler? Du lourd, je vous le dis, la preuve, à un moment donné, Descartes réfléchit et sort « Il vaut parfois mieux faire le mal que le bien. » Et toc. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time. En 1982, le génial créateur d'univers, Ridley Scott, qui vient de bien dépoussiérer le genre en créant l'horreur Made in Space, mais si, souvenez-vous, dans l'espace, personne ne vous entend crier, se penche sur le cas Dick. Ridley Scott donc adapte le livre de Dick. Il y fait sale, il y fait nuit, il pleut tout le temps, les vaisseaux, comme dans Alien, sont usagés et crades. Bref, le futur fait peur et son film est un chef-d'œuvre. « 35 ans plus tard, Denis Villeneuve remet le couvert avec Blade Runner 2049. La musique de Hans Zimmer, qui excelle dans les pas synthétiques de Vangelis, le non-acting de Ryan Gosling, le caméo d'Harrison Ford et la maestria du réalisateur de Dune refont des miracles. » «
dans ce cas-là.
Une histoire, trois visions tout aussi géniales les unes que les autres, c'est pas, comment dire, génial ça ?
I know.
Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Merci Jean-Marc Panis et bonjour Romain Renard.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes auteur de bande dessinée, vous êtes scénographe, vous êtes graphiste, vous êtes musicien et vous signez entre autres Pépite, hein, la saga Melville aux éditions Le Lombard. Mais si vous êtes là ce matin, c'est en qualité de grand prêcheur de la génialitude de cette œuvre qu'est Blade Runner. Alors, votre première rencontre avec un réplicant, dites-nous tout, c'était quand et ça vous a fait quoi?
Oh, j'étais très jeune, je devais avoir 8-9 ans, je m'ennuyais chez un ami de mes parents qui avait un magnétoscope Betamax à l'époque.
Ah oui,
et qui,
il n'a pas survécu.
Et moi j'étais dans ma période Star Wars et il m'a dit mais t'as jamais vu Blade Runner? Non, mais c'est avec Harrison Ford, je sais pas qui c'est, bah, Han Solo, vas-y. Et je me prends ça...
C'est un peu jeune, 8-9 ans quand même pour Blade Runner.
Ouais, mais ça va, j'étais prêt. J'étais prêt et ça m'a nourri, ça me nourrit toujours depuis ce moment-là.
Ouais.
Mais j'ai vu, là, à l'époque, donc, la toute première version. On en parlera peut-être, il y a eu tellement de versions différentes.
Il y en a 7, je pense, au total.
Du film, il y a eu plein de remontages différents, il y a eu des fins différentes, il y a eu des voix off, des choses qui ont été changées depuis. Donc moi j'ai vu la toute première version, donc c'est un peu ma version, ma Madeleine en fait, cette version de 1982.
Et quand on voit ça à 9 ans, est-ce que ça donne d'emblée envie de raconter des histoires après ou est-ce qu'il faut que ça percole un petit peu? Qu'est-ce que...
Ça a certainement dû percoler et ça a certainement dû faire son effet. Je sais que quand j'avais 14-15 ans, que je commençais à dessiner... pour moi-même, que je me prêtais des velléités de bande dessinée. Je faisais évidemment de la SF et je dessinais des mondes à la Blade Runner. Mmh. Mais aussi parce que Blade Runner est inspiré de bande dessinée. À la base, il y a une courte histoire que Moebius a dessinée dans le journal Métal Hurlant, qui est un journal mythique dans les années 70, qui a été créé par Jean-Pierre Dionnet, Moebius, Druyer, Philippe Manœuvre va rejoindre l'équipe. Et The Long Tomorrow, c'est cette histoire qui est scénarisée par Dan O'Bannon, qui est un scénariste pour le cinéma, qui a travaillé sur le scénario d'ailleurs de Alien avec Ridley Scott. Fait cette histoire d'un privé désabusé qui vit dans une ville totalement insalubre avec des énormes buildings. Enfin non, il est plutôt sous terre. Il y a une femme fatale pour qui l'enquête. C'est une histoire qui est un piège. Et cette histoire va être une véritable carte graphique pour le projet Blade Runner pour Ridley Scott. Il va toujours montrer ses dessins à ses collaborateurs, même à ses acteurs. Il y a un autre aussi dessinateur français qui est Enki Bilal aussi.
Oui, bien sûr.
Voilà. Légendaire Enki Bilal pour la SF, justement dans ce côté poisseux. Il y en a tellement.
Il y en a beaucoup. Mais c'est vrai qu'effectivement, au cinéma, c'est aussi pour ça que ce film marque, parce que 82, c'est quand même une époque ultra prolifique pour le cinéma de genre et pour la science-fiction.
C'est dingue ce qui se passe en 82.
Voilà, tous les monuments dont on parle encore aujourd'hui sont sortis plus ou moins dans cette période, entre 5 et 10 ans. Il y a eu Alien, il y a les Mad Max, il y a les Carpenters. Enfin, tout sort en fait à ce moment-là. Il y a quelque chose dans l'air.
Voilà. E.T. sort la même année.
E.T. sort la même année, effectivement. Ce qui va causer d'ailleurs la perte de la chose de Carpenter qui
complètement.
Sort exactement en même temps. On en a parlé il y a quelques temps. Mais ce qu'amène effectivement Blade Runner et Ridley Scott, c'est justement apporter à l'écran cette science-fiction crado, ce côté justement dark de la science-fiction où il pleut tout le temps, il y a la pollution, les vaisseaux spatiaux sont déglingués. On est assez loin de tout ce qu'on avait peut-être pu connaître avant. Encore dans Star Wars, oui, les gentils ont des engins plutôt en mauvais état, mais généralement les vaisseaux spatiaux, enfin tout ce qui est technologie, a l'air quand même assez propre et assez reluisant.
Ah, ça blinque.
Oui.
Ça blinque. Les robots sont en or, ça bride partout. Blade Runner, c'est le début du cyberpunk.
Oui.
C'est ce qui va influencer une multitude de bandes dessinées par la suite, une multitude de jeux vidéo, et évidemment plein de films.
Oui.
Je pense à...
Quand on regarde certains plans du Los Angeles de Blade Runner, on peut penser à Matrix, par exemple.
Oui, ou alors il y a Dark City aussi.
Tout à fait, oui.
Strange Day, à un certain moment aussi, à la fin des années 90. Donc ce film est fondateur d'un genre, fondateur de plein de choses. En même temps, c'est aussi parce qu'il a imprimé quelque chose qui existait déjà. Mmh. C'est-à-dire que c'est un film noir futuriste.
Ouais.
Ça pourrait être Howard Hawks qui aurait réalisé ce film. Descartes, qui est joué par Harrison Ford, pourrait être un personnage de Raymond Chandler, mmh, ou de Dashiell Hammett.
Oui, on fait souvent le parallèle avec un Dick Tracy du futur.
Complètement, complètement. Rachel, qui est jouée par Chun Young, ouais, pourrait être Lorraine Bacall. Et c'est en fait pour ça aussi que ce film ne peut pas vieillir et qu'il était déjà génial,
mmh,
à son époque, c'est que c'est un futur que l'on connaît déjà.
Ouais.
C'est-à-dire que ce n'est pas un futur qu'on doit réinventer. Donc ça veut dire que il ne peut pas vieillir puisqu'il existe déjà,
mmh,
puisque on connaît en fait déjà tous ces codes. Les persiennes, la lumière rasante à travers les persiennes, les pales des ventilateurs qui tournent, les volutes de fumée, etc. Enfin, tous les codes du film noir des années 30.
Ouais, tout à fait. Jusque dans les tenues et dans les coiffures, effectivement. Alors, on peut pas dissocier Blade Runner de Philip K. Dick, vu que c'est la nouvelle, le roman, les androïdes Rachel de Mouton Électrique, qui est au départ. Aujourd'hui, il est cité parmi les maîtres de la science-fiction. Pourtant, lui-même était quand même assez frustré, assez gêné d'avoir un succès commercial en tant qu'auteur de science-fiction. Il n'a jamais vraiment assumé son statut d'auteur de genre. C'est le monde après qui décide de l'importance d'un héritage culturel.
C'est le talent de ses adaptations, je pense. Moi, je ne suis pas un grand lecteur de Philip K. Dick. Enfin, Philip K. Dick me... Pardon pour tous les Kadikiens qui m'écoutent, mais me rebute un petit peu.
Uh-huh.
Mais en revanche, c'est quelqu'un qui apporte des idées extraordinaires. Uh-huh. Quand on pense le nombre de films qui ont été adaptés par Kadik, c'est époustouflant.
Il y en a près de 80, je pense, au total.
À part lui, il y a King, uh-huh, King, mais sinon... donc oui, moi, en fait, je préfère de loin ces adaptations.
Ouais, ça vous fait un point commun avec Ridley Scott, figurez-vous, qui n'avait pas lu le livre en entier. En tout cas, avant d'adapter l'histoire, il l'avait feuilleté, il l'a avoué à Philip K. Dick, il lui a dit lui-même, je comprends que vous ne l'ayez pas lu, c'est trop compliqué, c'est trop dense. Donc, mais c'est vrai qu'on lui reproche souvent à Philip K. Dick d'avoir cette écriture blanche, entre guillemets, qui n'est pas très marquée, il n'y a pas vraiment de style, c'est vraiment tout au service de l'histoire. Mais en même temps, comme on l'a dit, c'est un des auteurs les plus adaptés. Donc qu'est-ce qui fait peut-être, et là c'est peut-être du point de vue d'auteur et de scénographe que je vous parle, qu'est-ce qui fait l'adaptabilité, la transposabilité d'une histoire?
Ça dépend des auteurs.
Mm.
Ça dépend vraiment des auteurs. Blade Runner aurait pu être un film complètement raté, avec une histoire, parce qu'on s'éloigne quand même pas mal
de l'histoire de départ.
Mmh. Dans l'histoire de départ, il y a une religion qui est hyper présente. Les antagonistes sont différents. Le rapport entre ce qu'on va appeler les réplicants, ce que Kadic appelle androïdes et que je crois c'est Fincher, le scénariste de Blade Runner, va appeler ça les réplicants. Les rapports sont totalement différents. Dans Blade Runner, les réplicants ont une âme.
Mm-hmm.
Ils sont nourris par le mythe, ils sont nourris par leur propre histoire. Ce sont des gens qui sont passionnés par la photo,
oui,
parce qu'on leur a imprimé des souvenirs qui ne sont pas à eux, mais finalement ces souvenirs, ce sont eux.
Mm-hmm.
Et c'est ça qui est formidable dans le film, c'est qu'on se pose la question, enfin Ridley Scott et ses scénaristes posent la question, qu'est-ce qui fait de nous des humains?
Mm-hmm.
Est-ce que c'est notre forme ou est-ce que c'est ce que nous nous souvenons de nous-mêmes?
Mm-hmm.
Est-ce que ce sont les souvenirs que l'on garde, ce sont la trace que l'on va laisser? Est-ce que c'est ça qui fait de nous des êtres humains?
Mm-hmm. Oui, ça nous parle aussi forcément de l'incommunicabilité finalement, des sentiments, des émotions. C'est quelque chose qui revient tout le temps avec ces réplicants qui ont des vrais faux souvenirs implantés auxquels ils croient tout en sachant qu'effectivement c'est artificiel. Et là, je fais un petit parallèle avec votre série Melville, où il y a quand même plusieurs personnages qui ne sont jamais très sûrs de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont ressenti. Certains ont des visions, certains voient une réalité qui pourrait peut-être être déformée, on n'est jamais très sûr. Et ça vient nous poser la question, est-ce qu'on peut toujours, enfin, on peut jamais vraiment se fier totalement au héros, même si c'est le héros qu'on est en train de suivre?
Ah, vaste question. Oui, c'est fort possible.
Mm-hmm.
Rien n'est défini. Mmh. Rien n'est défini. Nous faisons connaissance là maintenant. J'aurais une vision totalement différente de vous si on se connaissait depuis un mois ou, ou etc. Je pense que c'est pareil avec, avec un personnage de roman, de livre, de film.
Il y a quand même une certaine... Enfin, après, c'est chez Kadic plus, il y a une certaine paranoïa constante, mais ça qui faisait partie intégrante de sa personnalité.
Peut-être de ses usages...
Et de ses usages de substances, effectivement, qui apparaissent d'ailleurs dans plusieurs histoires. Alors, on va faire un petit détour par la musique, hein, la musique qui est très importante aussi dans Blade Runner, musique composée par Vangelis, on l'a dit dans la capsule, on va se la remettre un petit peu dans l'oreille d'ailleurs. Musique qui finalement est presque lumineuse, presque optimiste hein, par rapport à l'univers.
Ah, moi je la trouve assez assez annonciatrice du drame ou en tout cas de la peut-être pas du drame mais de la condamnation de toute cette humanité que l'on voit, humanité au sens large, hein, que ce soit réplicant ou humain. Mais on a aussi dans cette musique des notes qui viennent convoquer des fantômes comme le Miles Davis de d'Ascenseur pour échafaud, parce qu'on retrouve aussi dans la musique de Vangelis avec ces quelques petites notes de jazz d'un cuivre, que ce soit une trompette, que ce soit un saxophone langoureux à un certain moment ou des notes de piano. Le désespoir de tous ces personnages, cette mélancolie qui habite complètement le film, et cette référence au néo-noir qui est toujours là, qui est toujours présente.
Oui, effectivement. Et j'y venais parce que vous êtes aussi musicien, et vos œuvres s'accompagnent aussi d'une bande-son et d'une espèce de réalité augmentée, vu qu'il y a une app qui permet de visiter aussi un petit peu les décors de l'histoire. Donc, sous couvert d'une bonne part de réalisme, c'est votre côté Philippe Kadic, ça, le côté on casse le quatrième mur et on rentre un petit peu dans la science-fiction.
Wagner, je sais pas.
Non, mais plus.
En toute humilité.
Plus sérieusement, en fait, quand on crée un univers total comme ça, qu'il soit au cinéma ou qu'il soit en littérature, on est tenté de mettre en scène le plus complètement, le plus loin possible, quitte à passer par les cinq sens, si on en a l'opportunité de compléter sa vision.
Je réfléchis. Vraiment, en toute honnêteté, je réfléchis absolument pas. Dans ce sens-là, je fais ce que j'aime. Et donc, j'ai le malheur de toucher un peu à plein de choses. Et donc, ça m'anime de raconter des histoires vues par d'autres angles. Quand je fais la musique d'une bande dessinée, je raconte aussi cette histoire, mais d'une autre manière, avec des sons. Je fais la même chose avec de la vidéo. Là, actuellement, pour le cinéma d'animation ou pour des concerts. Ce qui m'anime, c'est raconter des histoires. C'est ce que ma fille dit à l'école. Quand on lui demande quel est le métier de son papa, il raconte des histoires. Il ne fait pas de bande dessinée, il raconte des histoires. C'est ça qui m'anime. Donc voilà, je prends les jouets que j'ai autour de moi dans ma chambre.
Alors, l'histoire de Blade Runner, justement, elle a été racontée, elle a été re-racontée. Il y a des tas de légendes, en fait, autour de cette histoire, de ce film, finalement. Parce qu'on l'a dit, il a été remonté plusieurs fois. Les audiences tests avaient détesté le film et donc on avait rajouté un voice-over. Il y a eu le director's cut, il y a eu le final cut. Il y a toute une histoire aussi, je l'ai appris en bûchant ce dossier, il y a toute une histoire de malédiction en fait autour du film, parce que tous les logos de toutes les marques futuristes qui apparaissent dans le livre sont des marques qui ont toutes disparu complètement aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ce film continue à avoir autant d'aura finalement en 2022?
Parce que justement tout est là, parce que c'est un monde qui est réel, qui a été créé. Il y a Sid Mead qui a conçu les machines, qui a conçu les buildings, qui a été très très loin dans le détail de conception. Ces machines volantes, en fait, pourraient voler.
Oui, c'est un monde dans lequel on peut se projeter.
Complètement. Les rues dans lesquelles les personnages marchent, il y a des libraires. Et dans ces librairies, il y a des magazines. Et ces magazines existent réellement. Ils ont été tous dessinés. Et il y a des centaines de magazines. On ne les voit pas à l'écran, mais ils sont là, ils existent, ils sont présents. Donc, il y a une telle une telle précision dans tout, dans chaque détail. D'ailleurs, vous savez comment on reconnaît un répliquant dans le film.
Oui, c'est avec la petite lueur au fond de la pupille.
Exactement, exactement. Ce sont plein de choses. L'œil est partout.
Oui, l'œil est partout, effectivement.
Dans le film. Mais aussi, c'est parce que ça convoque tellement de mythes. Mmh. Ça convoque le mythe de la création, ça convoque le mythe des anges déchus, de ces anges qui veulent retrouver leur créateur. Mmh. Ça convoque notre condition humaine à être condamnée.
Oui. Et le transhumanisme par la même occasion.
Exactement, exactement. Mmh. Non, mais voilà, ça s'abrasse tellement de choses. Mais alors oui, il y a une malédiction, c'est que aussi, à sa sortie, le film n'a pas tellement bien marché. Mmh. La critique était partagée. Il y a une critique assassine, d'ailleurs, de Philippe Manœuvre, dans les pages de Métal Hurlant, là où, justement, le film était presque né avec Moebius. Métal Hurlant hurle au vol. J'ai noté, parce qu'il faut l'entendre quand même, j'ai noté quelques passages de sa critique. Mmh. Au Picrate. je retrouve, c'est juste incroyable. Il faudrait crever les yeux de Ridley Scott, lui faire boire de l'eau de Javel, ensuite emmener ce ringard total vers un studio télé où il pourrait en toute quiétude se remettre à produire des publicités.
Oh, c'est violent.
C'est assez violent. Oui. Et Jean-Pierre Dionnet, qui était donc rédacteur en chef de Métal Hurlant, allait aussi de ses amabilités. Et sous prétexte qu'il a fait travailler Moebius sur Alien, voici maintenant que Ridley Scott croit qu'il a le droit de piller sans le citer. C'était en fait j'ai l'impression que c'était des parents qui étaient à qui on avait volé
leur bébé
ou qui auraient aimé faire ce film mais qui n'avaient pas le talent.
Est-ce que l'histoire nous dit s'ils ont fait leur mea culpa depuis avec le temps?
Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que pour connaître quelques dessinateurs qui ont officié dans les pages de Métal Hurlant, les dessinateurs à l'époque étaient atterrés par cette critique, parce que mais c'est pas possible, c'est nous, c'est vous, c'est tout ce qu'on rêve en dessin qui est porté à l'écran. Qu'est-ce qui vous prend?
Alors le temps a passé depuis cette critique assassine. On n'est plus en 2019, on n'est pas encore en 2049. Alors pourquoi voir ou revoir Blade Runner en 2022? Et on se quittera là-dessus.
Parce que c'est génial.
Allez, c'est un peu facile, mais je prends. Merci beaucoup, Romain Renard. On espère en tout cas qu'on aura éveillé votre curiosité littéraire et ou cinématographique. Allez voir ou allez revoir le Blade Runner de 82 et celui de Denis Villeneuve aussi, Blade Runner 2049. Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous,
Romain Renard, d'avoir été notre invité ce matin et d'être venu nous en parler avec autant d'éloquence.
La première,
9h-10h,
c'est génial.